Merci effectivement d'une part à l'ENSIB de nous recevoir et puis nous avons une grosse dette vis-à-vis des presses de l'ENSIB, j'y reviendrai tout à l'heure, donc merci aussi à Catherine Jackson et à Thierry Amakoff qui nous a salués tout à l'heure. Et nous avons choisi aujourd'hui, Marie et moi, de faire une présentation qui sera un petit peu improvisée, il faut bien le dire, et sous forme dialoguée, si la technique nous le permet, puisque vous avez vu, hein, vous êtes tous là tout près, qu'il va falloir qu'on jongle avec le micro et la présentation PowerPoint. Voilà. Alors pourquoi est-ce que nous avons choisi cette forme? D'une part parce qu'effectivement on est passé d'un format conférence annoncé il y a une semaine à cette ambiance un peu plus intimiste dans la bibliothèque, ce qui peut être une bonne chose d'ailleurs. On va y revenir par rapport à notre histoire et justement par rapport à l'histoire des conférences dans les bibliothèques. Hein, donc on est en plein dans le mille pour ça. Et puis aussi parce que c'est intéressant de dialoguer là-dessus. Je crois qu'on va essayer. Alors c'est vraiment, on est dans l'improvisation totale. Hein, donc il faut bien que vous le compreniez. On n'a pas du tout préparé. On avait préparé une conférence. Là, on est en pleine improvisation. Donc vous nous excuserez si parfois on a du mal à passer le micro, si on reste un peu bouche bée, etc. D'autant plus qu'on arrive toutes les deux de Paris. On travaillait ce matin à la Bibliothèque nationale. Voilà. Bien, alors j'ai intitulé cette conférence du coup, ou cette discussion, derrière les livres et les bibliothèques, il y a toujours des rêves et des aventures. J'espère que vous allez comprendre ce titre, c'est parce que je voudrais vous expliquer que d'une part, derrière les bibliothèques populaires, il y a une aventure formidable. Et cette aventure formidable, on va essayer de vous la raconter, et on va vous la raconter sous différents angles, puisque Marie va vous raconter tout à fait autre chose, en fait. Mais c'est pour ça qu'elle est là. Je vais expliquer pourquoi je l'ai invitée justement à participer à ce projet, ce qui n'était pas évident au départ. Vous avez peut-être tiqué tout à l'heure un peu sur le titre, et vous allez comprendre pourquoi elle est intervenue justement dans les bibliothèques populaires. Ensuite, ce qui me paraît intéressant, chaque fois que je reçois un chercheur à la Bibliothèque nationale de France, je lui demande pourquoi il a entamé cette recherche. C'est quelque chose de phénoménal que d'essayer de comprendre pourquoi telle ou telle personne arrive un jour à faire un mémoire, à faire une thèse. Derrière ça, chaque fois, il y a des petites histoires, il y a des grandes histoires, et en tout cas, il y a toujours quelque chose d'absolument magique, et puis il y a des hasards aussi, comme je vais essayer de vous le montrer. Et je trouve ça fabuleux, parce qu'en fait, souvent, les gens, la première réponse qu'ils vont vous faire, c'est mon directeur de thèse qui m'a proposé, etc. C'est faux. On n'arrive jamais à un sujet de recherche par hasard, et on passe encore moins toute sa vie sur un sujet de recherche, je pense. Donc c'est une accumulation de petites choses. Et donc je me suis livrée à cet exercice, peut-être que Marie pourra le faire aussi, c'est-à-dire que je me suis interrogée, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait que j'ai pu m'interroger autant sur les bibliothèques populaires, alors que très honnêtement, je vais y revenir tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, je ne connaissais pas vraiment leur existence, comme beaucoup de bibliothécaires. Et là, avec cette espèce de remontée dans le passé, eh bien, je me suis aperçue qu'il y avait, pour moi, toute une histoire de la lecture et toute une histoire des bibliothèques. Donc je vais tout simplement vous raconter ma vie, voilà, puisque j'approche le demi-siècle, je peux me le permettre. Et donc il y a un demi-siècle, eh bien, je vivais dans une toute petite campagne du Cognacé, donc près de Cognac, au sud de la Charente-Maritime. J'étais une fille d'enseignant, et comme vous le savez, souvent les enfants d'enseignants adorent lire, surtout que parfois dans ces milieux-là, ils ne sont pas forcément tout à fait en phase avec leurs petits camarades, ils n'ont pas tout à fait la même éducation à la maison, en tout cas il y a 50 ans. Et du coup, je lisais énormément. J'étais ce qu'on peut appeler vraiment une grande lectrice, une boulimique de lecture dès mes 6 ans. Et j'ai épuisé rapidement, évidemment, ce qu'il y avait chez mes parents, qui pourtant avaient énormément de livres et qui me laissaient tout lire. Et ça aussi, c'est important. J'ai eu le droit de tout lire dès mes 6 ans. Donc j'ai lu tout Zola à 10 ans. C'est aussi, ça conditionne aussi une partie de mes recherches. Et puis, on me prêtait des livres. C'est-à-dire que l'entourage, voyant une petite gamine qui cherchait à lire, me prêtait des livres. Et c'est là, je m'en suis rendu compte en réfléchissant il y a quelques jours, que pour la première fois, j'ai rencontré une forme de bibliothèque populaire, même s'il ne faut pas les appeler comme ça, qui sont les bibliothèques scolaires. Parce que mon instituteur, voyant que le coin lecture des années 70 ne me suffisait plus, m'a dit un jour, viens, je t'emmène, on a dans de vieilles armoires des très vieux bouquins, ça va peut-être te plaire. Et en fait, en y repensant, il m'a montré tout simplement les vieux ouvrages du 19e siècle qui constituaient les premières bibliothèques scolaires. Il y avait le sapeur Camembert, etc., etc. Ce sont des ouvrages qui depuis ont disparu des écoles primaires parce qu'ils ont été désherbés, comme on dit, en bibliothèque. Mais en tout cas, il y a 50 ans, on pouvait encore les trouver dans les écoles primaires. La deuxième forme de bibliothèque que j'ai pu connaître dans mon petit village, c'est le bibliobus. Alors ma maman, qui était institutrice, un jour me dit, tu vas voir, je vais t'emmener voir ce qu'apporte le bibliobus. Alors, vous connaissez un peu l'histoire des bibliobus. Normalement, le bibliobus était censé apporter beaucoup d'ouvrages aux lecteurs, en tout cas des choses différentes. Pas du tout dans mon village. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans le sud de la Charente-Maritime, on est dans une commune très catholique, et en fait, eh bien, c'est la secrétaire de mairie qui est ce qu'on appelle une grenouille de bénitier, qui fait le choix lorsque le bibliobus passe. Et je me rappelle l'odeur de cette caisse de vieux livres et ma déception devant le choix proposé par le bibliobus. Et il y a comme ça, tout au cours de mon enfance et puis de mon adolescence, eh bien, des bibliothèques qui font flash. Et je pense que c'est pareil pour vous. C'est-à-dire que je me rappelle ensuite, alors quand je suis allée au lycée dans la petite ville d'à côté, j'ai découvert un truc merveilleux. Et là aussi, j'ignorais évidemment à l'époque qu'il y avait un rapport avec les bibliothèques populaires. C'était les bibliothèques pour tous. Alors, qui normalement sont plutôt d'obédience un peu religieuse, mais qui en tout cas, alors là, dans cette petite ville, prêtaient plein d'ouvrages, plein de romans, et pour l'adolescente que j'étais, ça a été un choc fabuleux. Et je ne me suis pas posé la question, j'avoue, en tant qu'adolescente, de savoir ce qu'ils proposaient, d'où ça venait et pourquoi. Là, j'avais trouvé une nouvelle bibliothèque et plein de choses à me mettre sous la dent. Et puis après, bah, comme beaucoup de gens, j'ai des flashs sur des bibliothèques. Alors, la bibliothèque de Bordeaux, puisqu'après je suis allée faire mes études à Bordeaux, l'escalier qui monte, et puis cette bibliothèque très impressionnante à l'époque, la bibliothèque de Toulouse aussi, avec ses grandes tables en bois, et puis enfin, évidemment, la bibliothèque nationale à Richelieu. Alors, vous voyez, là, on est pour l'instant plutôt très loin des bibliothèques populaires. Mais je vais y arriver. Donc, j'ai fait des études, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis historienne d'origine, je suis devenue enseignante. Et mes thèmes de recherche, je vous parlais de Zola tout à l'heure, mes thèmes de recherche, ça a été l'histoire de la littérature populaire, le roman, etc. Donc je revenais, vous voyez déjà, à la littérature. Et puis, au bout de 20 ans d'enseignement, vous savez qu'on a annoncé que les retraites ne seraient plus au bout de 37 ans, mais au bout de 42 ans. Donc je me suis posé des questions, je me suis dit, est-ce que je vais répéter les mêmes choses pendant 42 ans? Certainement pas. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose d'autre de ma vie? Oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé le concours de conservateur et je me suis retrouvée, du coup, dans la même promotion que Marie, dans le DCB 19. Et il s'est passé, alors un de ces premiers hasards dont je vous parle, et qui sont quand même, quand on y réfléchit, très intéressants dans la vie d'un chercheur. Nous étions donc exactement il y a 5 ans, vous savez que ce week-end il y a les journées du patrimoine. Donc il y a 5 ans, mon compagnon me dit, Agnès, on va aller visiter un certain nombre de lieux dans le 3e arrondissement. Je dis oui, pourquoi pas. Et puis il me sort une liste et puis il me dit, j'ai vu qu'il y avait une petite bibliothèque, alors pour toi qui dans quelques mois rentre à l'ENSIB, une bibliothèque, ça devrait t'intéresser. Je dis oui, bon, je le suis, mais sans une motivation énorme. Je me disais, une bibliothèque, pourquoi visiter une bibliothèque au moment des journées du patrimoine? C'est un peu bizarre. Voilà. Alors prenons la machine à remonter le temps. Voilà, nous sommes rue Turenne dans le 3e arrondissement, c'est l'hôtel de Gourgue, et vous êtes donc devant l'hôtel de Gourgue dans les années 1880. Vous voyez que l'hôtel de Gourgue à l'époque a quelques verrues en devanture, hein, ce sont des artisans, etc. Voilà. Alors, moi je fais déjà ma remontée dans le temps quand même quand on me propose d'aller rue Turenne, c'est-à-dire que déjà je me dis, bon, c'est le Marais, ça peut être intéressant. Par contre, quand j'arrive devant la bibliothèque, je dis à mon compagnon, mais je connais cet endroit. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, je fais des recherches sur Zola au musée Carnavalet, donc tout près. Depuis longtemps, j'ai vu un petit panonceau avec l'indication Bibliothèque des Amis d'Instruction. Et je me suis dit, c'est un vieux panonceau qu'on a laissé là, ça n'a aucun intérêt. Et puis en plus, je me suis dit, ça veut dire quoi, musée d'instruction? Ça fait pas envie. Je me suis dit, c'est une secte, c'est quoi? Enfin bon, j'avais pas eu envie. Je m'étais même pas posé la question de savoir, pour moi, c'était un lieu mort. C'est-à-dire, il y avait un panonceau, mais il n'y avait plus rien derrière la façade. Donc, nous entrons dans cette bibliothèque. Alors malheureusement, l'image ne peut pas vous donner tout, c'est-à-dire qu'il faut que vous imaginiez déjà l'odeur du livre ancien, cette délicieuse odeur, et il faut que vous imaginiez l'étagement, on le voit un petit peu, mais c'est beaucoup plus exigu, beaucoup plus serré, beaucoup plus confiné, donc l'étagement des livres de haut en bas. 20 000 ouvrages dans une toute petite superficie, de haut en bas, et serré, 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 comme on ne le fait plus évidemment dans les bibliothèques d'aujourd'hui. Ça, c'est mon premier choc. Et c'est un choc que tout le monde partage, je crois. Marie, tu peux le confirmer.
Hein, quand oui, absolument.
Voilà. Quand on rentre dans cette bibliothèque, c'est oh, ça sent bon. Voilà. Et ensuite, c'est joli parce qu'on a une très grande chance à la bibliothèque des amis d'instruction, c'est qu'il y a eu beaucoup de dons. Par conséquent, les livres, vous le voyez, les dos hein, sont de toutes les couleurs et c'est superbe à voir. Ouais. Donc ça, c'est ma première impression. Et puis, je regarde autour de moi et là, la matrice de romans populaires que je suis fait des bons parce que dans cette bibliothèque, il y a plein de romans populaires et surtout, je m'aperçois très vite qu'au lieu d'avoir une fois L'Assommoir de Zola, il est en 3 exemplaires. Au lieu d'avoir une fois Le Cocu de Paul de Kock, alors qu'on ne trouve plus dans aucune bibliothèque, bien évidemment, là, il a 4 exemplaires. Alors pourquoi? Parce qu'on achetait dans cette bibliothèque, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, autant de fois qu'il était nécessaire un ouvrage si les lecteurs le demandaient. Et ça, c'est encore un choc pour moi de voir tous ces romans qui sentent bon, qui sont encore là, et on est en plein 19e siècle. Le second choc, c'est d'écouter les gens qui présentent cette bibliothèque et qui la rendent absolument magique. Ce sont des bénévoles et ils expliquent toute une histoire que je ne connaissais pas, qui est l'histoire des bibliothèques populaires et plus précisément de cette bibliothèque des amis d'instruction. Et c'est un voyage dans le temps puisqu'ils m'expliquent, alors c'est plutôt une légende qu'ils racontent, ces bénévoles, c'est normal, ils m'expliquent qu'un ouvrier analphabète, c'est la légende de l'endroit, a fondé cette bibliothèque 150 ans plus tôt et qu'il a donc fondé la première bibliothèque de prêt de Paris, qui plus est ouverte aux femmes et fonctionnant sur un mode associatif. Et alors là, moi j'ai un coup de foudre terrible, ça y est, je suis dans mon Zola, je suis dans mes romans populaires, et le coup de foudre est réciproque. C'est-à-dire que ces gens-là, ils me demandent qui je suis, et ils me disent, vous êtes la personne qu'il nous faut. Ils sont âgés, ils ont entre 70 et 80 ans, ils ont besoin de sauver cette bibliothèque. Ça fait 150 ans que régulièrement des gens la sauvent. Ils ont peur qu'elle ferme. Et ils me disent, voilà, on veut quelqu'un comme vous qui soit historien, qui ait une sensibilité au lieu. On est bien en train de voir que vous êtes en train de vous pâmer là quand vous sentez cette odeur, et qui a un respect du lieu. Et alors quand je leur dis qu'en plus je vais être conservatrice ou conservateur des bibliothèques, alors là c'est le choc total, c'est moi qu'ils veulent, et ils veulent absolument qu'on entame une histoire d'amour. Alors moi je suis évidemment très réservée parce que je sais que je vais partir à Lyon, que je vais avoir une scolarité, et je leur dis, oulala, prudence s'il vous plaît, je ne sais pas, c'est bien gentil, c'est joli ce que vous me racontez là, mais est-ce que j'ai la légitimité, est-ce que j'ai le temps de prendre cette succession, puisque vous avez l'air de me proposer, c'est très lourd, j'ai l'impression. Voilà. Mais alors, ils vont avoir un argument suprême. Alors là, c'est le second étage de la bibliothèque, vous voyez qu'il y a encore des choses formidables, comme le magasin pittoresque, le tour du monde, etc. Mais ils ont aussi des archives. Et moi, je fais partie des gens qui ont le goût de l'archive, hein, décrit par Alerte Farge. Ah, des archives, je leur dis, ah, mais... Si je travaille avec vous, est-ce que vous m'autorisez à regarder vos archives? Est-ce que vous m'autorisez à faire quelque chose sur vos archives? Et c'est comme ça, vous le rappeliez tout à l'heure, que je débute ma scolarité à l'ENSIB. J'ai la chance que Raphaël Morin accepte que je fasse un mémoire sur les bibliothèques populaires, ce qui n'est pas évident parce que ce n'est pas encore un thème vraiment très fréquent à l'ENSIB. Je suis également soutenue par Evelyne Cohen, etc. Donc tout le monde me dit, mais si, il faut y aller, c'est intéressant, il y a des choses à faire sur les bibliothèques populaires. Et voilà donc comment je fais mon mémoire sur la bibliothèque populaire d'Épernay, hein, puisqu'on avait aussi les archives d'Épernay, une autre bibliothèque des amis de l'instruction. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Alors, mon histoire d'amour, évidemment, avec la bibliothèque des amis d'instruction, ben, elle va en se développant parce que j'ai fait un mémoire, etc. Donc finalement, vous me posez la question, pourquoi est-ce que je suis membre? Je suis plus que membre aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'au bout de ces 5 ans d'histoire d'amour, eh bien aujourd'hui, je suis la présidente d'une association qui s'appelle la Bibliothèque des amis d'instruction. Donc comme je dis souvent, j'ai une double vie. Je travaille à la fois dans la plus petite bibliothèque de Paris et la plus grande bibliothèque de Paris. Voilà. Donc voilà le début, hein, de cette histoire. Alors Marie, tu peux peut-être dire, parce que là je suis en train de parler beaucoup, tes sensations justement quand tu as vu cette bibliothèque, hein, la première fois. Alors Marie est venue faire une conférence à la bibliothèque des amis d'instruction à ma demande, donc comment tu t'es sentie là-dedans, toi qui aimes les livres aussi?
Oui, alors c'est vrai ce que disait Agnès, lorsqu'on entre dans la bibliothèque des amis de l'instruction du 3e arrondissement, c'est un petit peu un instantané du 19e siècle, puisque finalement, à part des lumières électriques, peut-être il n'y a pas énormément d'éléments modernes ou contemporains. C'est vrai que tout, y compris le mobilier, bien évidemment les ouvrages, etc., tout est véritablement d'époque. Donc c'est une bibliothèque qui est restée dans son jus, hein, comme on dit. Et effectivement, petit espace, énormément de collections, vraiment l'impression de pénétrer dans une bibliothèque 19e restée intacte, en fait.
Alors que les gens confondent malheureusement souvent avec un cabinet de lecture. Ils nous disent, ah, est-ce qu'on est dans un cabinet de lecture? Alors on fait, ah non, c'est pas ça. On leur explique, hein, c'est très différent. Bon, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc voilà où m'a amené ce mémoire, hein, jusqu'à Épernay, une bibliothèque des chemins de fer. Je vous ai montré la petite locomotive pour que vous voyez. Je pourrais vous en parler tout à l'heure. Alors, une fois que cette histoire d'amour s'est donc confirmée avec la bibliothèque des amis d'instruction, je me suis retrouvée avec un problème partagé avec tous les bénévoles, hein, parce que c'est une association, donc on réfléchit tous. Je me suis retrouvée avec un problème qui est le suivant. La bibliothèque des amis d'instruction, vous venez de le voir sur les photographies, et je vous en reparlerai tout à l'heure, est devenue un lieu de mémoire. Donc en fait, c'est quelque chose qui est un peu gelé. Et c'est très artificiel. Bon, je viens de faire des visites là pendant les journées du patrimoine, et les gens me disent, mais vous êtes une belle au bois dormant, qu'est-ce que vous faites, à quoi ça sert finalement d'avoir gelé comme ça un fond et d'avoir une sorte de décor qui ne bouge plus. Et nous avons un second problème qui est que pour justifier notre existence, par exemple, c'est la mairie de Paris qui nous prête les lieux. Nous avons un bail de 90 ans encore dans l'hôtel de Gourgues, ce n'est pas rien. Donc il faut que nous justifions auprès des autorités, alors non pas de tutelle puisque nous sommes libres et indépendants, nous sommes une association et nous y tenons, mais il faut que nous justifions la poursuite de notre activité, le fait que nous gardons le lieu, que nous gardions le fond, etc. Donc il faut à la fois, et c'est très compliqué, se montrer extrêmement dynamique. On ne peut pas se montrer dynamique en faisant semblant d'être une bibliothèque populaire aujourd'hui. On ne peut pas prêter ses ouvrages. Ils sont dans un état de fragilité extrême. Si on les prête, on perd toute trace de la lecture, toute trace de la pratique. Or, nous sommes le seul lieu en France dans ce style. Donc, il faut trouver autre chose. Alors, cette autre chose, c'est d'une part la poursuite des conférences telles qu'il pouvait y en avoir au XIXe siècle. J'en parlais tout à l'heure, à Marie, par exemple, a été invitée. Donc, nous invitons des universitaires à venir parler régulièrement de thèmes en rapport avec notre bibliothèque. Ça a été le roman populaire il y a 2 ans, par exemple. Cette année, ce sera les Saint-Simoniens et les Comtistes qui ont été à l'origine aussi, hein, dans leur pensée de cette bibliothèque. Mais là aussi, on reste très, très loin de la bibliothèque des amis d'instruction. Ça nous pose un autre problème. C'est-à-dire qu'on est très loin d'ouvriers qui venaient emprunter des livres. On est maintenant avec des intellectuels, entre eux, autour d'une petite table, une douzaine, dans cette bibliothèque. Ça fait un peu joujou, si vous voulez, pratiquement. Donc on essaie d'avoir une activité et une légitimité et de trouver de nouvelles choses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il nous semble qu'il y a au moins 2 directions, au moins d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue scientifique. C'est dire, voilà, on est les gardiens d'une histoire, qui est l'histoire, donc, des bibliothèques populaires. On est la dernière survivante, donc on doit transmettre cette histoire, et c'est déjà une fonction importante. Et deuxième chose, je dis toujours, nous sommes la seule bibliothèque à pouvoir offrir véritablement une trace de la lecture telle qu'elle était pratiquée au XIXe siècle. Les traces d'usure sur les dos des livres, le fait qu'il y ait 4 exemplaires, par exemple, d'un ouvrage, comme je vous le disais tout à l'heure, etc., eh bien, nous sommes les seuls à pouvoir proposer ça. Parce que ces ouvrages ont disparu sur les autres rayons des bibliothèques. Or, nous, vraiment, on offre une photographie du livre. Alors, c'est très artificiel, là aussi. C'est-à-dire que, alors, justement, pour avoir une pratique associative, pour s'ancrer un petit peu dans le marais, nous avons, par exemple, fondé un atelier relure. Alors, ce n'est pas vraiment un atelier relure, c'est un atelier qu'on appellerait dans les bibliothèques petite réparation. Donc, nous essayons de réparer les livres pour ne pas qu'ils se dégradent davantage, mais en même temps en gardant la trace de la lecture. Vous voyez là aussi, hein, combien tout le temps c'est un peu fragile cet équilibre et combien on peut se poser de questions sur ce qu'on est en train de faire par rapport à ce petit endroit. Je reviens donc à l'activité scientifique, comment faire que ce lieu se conserve, comment faire en sorte qu'on en parle encore aujourd'hui, comment faire en sorte que les gens viennent le voir. Eh bien, on s'est dit, au moins, en lui donnant une audience, en lui donnant une notoriété. Alors, là aussi, je suis extrêmement satisfaite de ce que nous avons fait en 4 ans, puisque je puis vous annoncer que nous avons eu un tournage de FR3 la semaine dernière. Donc ça nous a amené du monde, c'est important. Et on a terminé, alors je ne vais pas dire en beauté et en gloire, par un tournage de TF1 samedi dernier. Alors ça, là aussi, ça me pose question sur le retentissement culturel ou les choix culturels. Mais en tout cas, quand même, pour cette bibliothèque qui, il y a 4 ans, était en train de se demander si elle n'allait pas fermer, passer au JT TF1 samedi soir à 20h. Ça compte évidemment, mais c'est quand même important pour nous. Ça veut dire qu'au moins on montre qu'on existe et on a encore quand même des gens qui se disent que ça peut valoir la peine de venir nous voir ou de venir nous filmer. Donc il y a 30 ans, il y avait eu un premier effort pour essayer de ranimer cette bibliothèque. Ce sont les personnes dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai découvert qui avaient 70-80 ans et qui voulaient absolument me passer le flambeau. Eh bien, ces personnes, il y a 30 ans, avaient organisé un premier colloque qui avait eu beaucoup de retentissement, puisqu'ils rassemblaient des gens comme par exemple Mona Ozouf. Hein, donc ça avait eu vraiment un gros retentissement. Noé Richter, bien entendu, on y reviendra tout à l'heure. Et ils avaient édité les actes, mais de manière extrêmement artisanale. Donc nous nous sommes dit, en discutant entre nous, qu'il y avait plusieurs choses à faire. La première, c'était rééditer ces actes de 1984 que des personnes nous demandaient régulièrement et montrer qu'on était capable de faire autre chose que de rester dans les vieux bouquins, c'est-à-dire d'en faire une édition numérisée. Ce qui veut dire que nous avons corrigé les actes et nous les avons mis en ligne sur notre site. Donc là aussi, vous voyez, on essaie de donner une autre vision de notre bibliothèque. C'est important, les gens me posent régulièrement la question quand ils visitent. Et parfois de manière un peu agressive, ils me disent « Mais vous savez que ça existe l'informatique ?» Voilà, ben c'est normal, hein, c'est une réaction face aux vieux livres. Donc on leur dit « Ben oui, bien sûr, regardez, hein, on a un site internet. » Donc c'est un site sur lequel on trouve toutes les informations et qui est destiné, lui, au grand public. Mais ensuite, on s'est dit « Et pourquoi pas un nouveau colloque ?» Pourquoi pas aussi faire quelque chose d'extraordinaire, comme étaient capables d'en faire les bibliothèques populaires, c'est-à-dire retrouver un élan associatif comme en avaient les bibliothèques populaires. C'est ça qui nous a intéressés. Tout à l'heure, je vous parlerai peut-être des conférences faites par les bibliothèques populaires au XIXe siècle. Ils arrivaient à remplir l'amphithéâtre de la Sorbonne. Il y avait des centaines de gens, voire même des milliers, quand ils invitaient évidemment des orateurs comme Gambetta. Donc on s'est dit, ben voilà, il faut peut-être qu'on ait aussi ce symbole-là, c'est-à-dire, voilà, on est toujours une association et on est capable de faire des choses extraordinaires. Alors évidemment, ça s'est fait avec l'aide des institutions. Et là aussi, vous le voyez, ça peut être un peu ambigu, hein, c'est-à-dire qu'on retombe à nouveau sur quelque chose qui est important, mais qui s'est fait au 19e. Tout à l'heure, je vous expliquerai que la Bibliothèque des Amis de l'Instruction, elle a eu des soutiens, évidemment, dans les élites intellectuelles. Elle n'aurait pas pu exister toute seule. Donc on a fait la même chose, c'est-à-dire que la BNF nous a aidés, elle nous a prêté des documents, nous avons fait le colloque à l'Arsenal, et puis nous avons eu le soutien de l'ENSIB, en particulier des presses de l'ENSIB. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui ne se fait pas dans le monde universitaire à l'heure actuelle. Il y a, à l'heure actuelle, 2 à 5 ans de délai entre un colloque et la publication des actes. Or, tout le monde s'y est mis, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, j'ai vraiment un gros merci à dire aux presses de l'ENSIB et aussi aux gens qui ont participé à l'ouvrage. C'est-à-dire qu'arriver à écrire ce qu'on va dire pour le jour du colloque quelques mois à l'avance et que tout le monde puisse faire en sorte que ce soit corrigé, imprimé, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire et je trouve que c'est super parce que ça reflète justement l'élan passé mais présent encore de la Bibliothèque des Amis d'Instruction. Et accompagner le colloque d'une exposition, donc nous avons fait une toute petite exposition à la Bibliothèque de l'Arsenal pendant la durée du colloque, en retrouvant un nombre considérable de documents. Et ça aussi, c'était important pour nous, j'y reviendrai tout à l'heure, on voulait montrer qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire sur les bibliothèques populaires, qu'il y a énormément de documents, contrairement à ce que j'ai pu entendre dire ici et là, il y a encore beaucoup d'archives à retrouver et il y a beaucoup d'imprimés qui peuvent servir pour retracer cette histoire. Alors, là, c'est une question très intéressante qui s'est posée à moi, avec l'aide de Jean-Yves Mollier, qui m'a assisté pour le colloque, qui était donc co-directeur du colloque, c'est comment faisons-nous, qui attirons-nous dans cette aventure. Donc, nous avons passé de manière classique une annonce dans Calenda et Fabula pour avoir des intervenants. Avec cet angle qui est double et qui est intéressant, c'est-à-dire que Jean-Yves Mollier est historien, et que moi j'intervenais non pas sous l'angle historien mais sous l'angle conservateur des bibliothèques. Donc déjà on avait attiré de la sorte à la fois tous les gens qui s'intéressent à l'histoire des bibliothèques et à la fois des conservateurs. Donc ça c'était déjà une première chose, je voulais qu'il y ait cette double approche qui me paraissait très intéressante. Et grâce à l'appel à communication, on a même eu des gens qui sont venus d'autres horizons, et en particulier on a eu une sociologue. Si c'était à refaire, j'aimerais qu'on ait encore plus de gens de tous les domaines. J'espère qu'il y aura un deuxième ou un troisième colloque, et j'espère qu'on ratissera de plus en plus large, parce que ça me paraît fondamental que tout le monde, dans tous les univers, s'intéresse aux bibliothèques populaires. Voilà. Et je souhaitais qu'il y ait de jeunes chercheurs ou de jeunes bibliothécaires qui puissent intervenir dans cet ouvrage. Ça me paraissait aussi très important de ne pas demander simplement à ce qu'on appelle les grandes pointures d'intervenir dans l'ouvrage, mais bien aussi à des gens qui publiaient éventuellement pour la première fois. Et je les en remercie parce que ça a été un exercice un peu angoissant pour eux, pour les plus jeunes, de publier pour la première fois. Ils avaient plein de questions à me poser sans arrêt en me disant « Mais comment ça se passe? Mais pourquoi mon texte n'est pas encore revenu ?» Enfin voilà. Mais c'est important parce que je voulais ce mélange. Ça me semblait là aussi un peu plus dynamique et un peu plus... toujours correspondant à l'histoire des bibliothèques populaires. Alors pour ce faire, nous avons aussi créé, et c'est ça qui est intéressant, un carnet de recherche. Alors vous connaissez, je pense, les carnets de recherche d'hypothèse.org, donc ça a été là toute une histoire, encore une fois, parce que pour créer un carnet sur hypothèse.org, eh bien il faut suivre leur formation, il faut montrer patte blanche, il faut bien montrer qu'on a un sujet de recherche, que ça peut intéresser des gens, etc. Donc il y a pas mal de jours de travail derrière ça, et puis ben, maintenant le carnet fonctionne, il y a des gens qui commencent à échanger avec nous, et ça c'est intéressant. Ça a démarré petit à petit, mais là on a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce que nous pouvons faire par le biais du carnet de recherche. Donc merci aussi, je le disais tout à l'heure, aux presses de l'ANSIB qui ont relevé un sacré défi puisque nous avions le livre prêt, et c'était magique pour les intervenants, le jour du colloque. Avec une petite subtilité, c'est-à-dire qu'on l'a bien appelé acte du colloque, mais comme vous le rappeliez tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait ça, parce que j'ai voulu aussi laisser une certaine liberté aux intervenants, donc c'est pas parce qu'on était intervenant qu'on était obligé de publier. Et à l'inverse, vous avez des gens qui ont publié, mais qui ne sont pas intervenus. Ça me paraissait, là aussi, pouvoir attirer d'autres personnes, donner une autre dynamique. Et puis, ça permet que, très bientôt, très prochainement, sur le site de notre bibliothèque, les communications seront mises en ligne. Et ça sera l'occasion, pour les gens qui feront l'effort d'aller écouter ces communications, de s'apercevoir que les gens ont joué le jeu et que les communications, dans l'ensemble, dans la grande majorité, sont très différentes de ce qui a pu être écrit. Ça vient aussi de cet effort que je vous décrivais, c'est-à-dire que c'est très différent quand on écrit avant et non pas après un colloque. Donc ça aussi, c'est une expérience qui est assez intéressante à mener et qui, me paraît-il, est très pertinente dans la recherche. Faire écrire les gens avant. Bon, même si c'est dans la souffrance, c'est intéressant. Marie, je te laisse intervenir, peut-être déjà réagir.
Oui, donc peut-être je pourrais évoquer un petit peu voilà, ma contribution, ma participation au colloque et à la publication.
Et dire pourquoi je t'ai invitée.
Voilà, exactement. Donc parce que moi, je me suis intéressée beaucoup dans le cadre de mes recherches, dans un premier temps lorsque j'étais élève à l'école des chartes, à la bibliothèque impériale, donc la bibliothèque sous l'administration notamment de Jules-Antoine Taschereau, qui était un administrateur de 1858 à 1874. C'est une période très riche dans l'histoire de la Bibliothèque nationale et qui avait été assez peu étudiée. C'est la période notamment qui commence avec la commission Mérimée de réorganisation de la Bibliothèque impériale en 1858. C'est une période de grands travaux. On se souvient tous des travaux d'Henri Labroust qui ont conduit à la construction de la grande salle de travail du département des imprimés, notamment.
Qui ont photographié à l'entrée.
Et également une période intéressante parce que Sainte-Geneviève. Et également parce qu'il y a une tentative dans un contexte de développement des bibliothèques populaires dans les années 1860 de création d'une salle à part qui est la salle B ou salle publique de lecture. l'ordre des mots est important, donc salle publique de lecture.
Justement, je précise quelque chose que j'ai oublié de dire, et Marie va pouvoir rebondir là-dessus, c'est qu'il me semblait fondamental aussi, dans une recherche, et en tout cas dans la direction d'un colloque ou dans la direction d'un ouvrage, d'inviter des personnes qui n'avaient pas forcément le même point de vue que nous. C'est-à-dire que, évidemment, moi, comme je suis à fond dans ces bibliothèques populaires, j'ai tendance à ne voir que par le prisme des bibliothèques populaires. Et il me semblait qu'à un moment donné, il fallait avoir un point de vue tout à fait différent, parce que Marie et moi, nous avons déjà échangé pas mal et on n'est pas forcément toujours d'accord. Et ça me paraissait d'autant plus enrichissant qu'elle apporte son point de vue. Et je dois dire que, justement, une fois qu'elle a eu apporté son point de vue, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc ça aussi, c'est une démarche qui est importante, c'est-à-dire se forcer parfois, alors non pas que je n'aime pas les recherches de Marie, bien au contraire, mais se forcer parfois à essayer d'adopter un autre point de vue et un autre prisme que celui sur lequel on est en train de travailler. Parce que c'est une histoire extrêmement différente, mais qui se rejoint aussi, hein, que celle qui est en train de vous raconter Marie. Et c'est ça qui me paraissait très dynamisant aussi.
Et c'est vrai qu'il y a eu donc d'autres interventions également pendant le colloque qui étaient un petit peu à part. Donc je parlais de mes recherches sur la salle publique de lecture, la salle B. Il y a eu d'autres interventions aussi un peu plus à part. Je pense notamment à celle de Charles-Éloi Vial qui a écrit sur les bibliothèques des palais impériaux, en fait. Donc là aussi, pareil, c'est-à-dire la démarche est différente dans la mesure où on part de grandes institutions, que ce soit la bibliothèque impériale, les bibliothèques des palais impériaux, qui ne sont pas a priori des bibliothèques populaires ni des institutions populaires, mais qui dans ce cadre avaient une salle ou une initiative en fait qui pouvait se rattacher à ce mouvement des bibliothèques populaires. Donc je continue peut-être un petit peu sur mes recherches. Donc je vous disais que j'avais étudié cette période dans le cadre de ma thèse d'école des chartes. J'ai poursuivi aussi mes recherches lorsque j'étais à l'ENSIB pour mon mémoire d'études de l'ENSIB qui était consacré en fait à l'accueil du grand public à la Bibliothèque nationale et Bibliothèque nationale de France, puisqu'en fait je faisais un parallèle que vous évoquiez en fait au début entre finalement cette création de la salle B et finalement ce partage des publics qui avait lieu dans la deuxième moitié du 19e siècle et la réforme du Haut-Jardin que pouvait connaître par exemple la Bibliothèque nationale de France dans une certaine mesure, cette distinction des publics entre bibliothèque d'études et bibliothèque de recherche à l'heure actuelle. Donc c'était un petit peu un parallélisme qui était établi entre un moment du 19e siècle et ensuite une réflexion aussi sur la séparation des publics au 20e et 21e siècle. Voilà, donc juste pour dire deux mots de cette fameuse salle B, ce que l'on peut dire en fait c'est qu'il y a une première tentative qui est faite dans les années 1833 de proposer une salle publique ouverte à tous avec possibilité de communiquer des ouvrages de différents départements grâce à des monte-charges. Et c'est une salle qui lorsqu'elle a ouvert en 1833 a eu un grand succès et beaucoup ont dit que voilà parce qu'elle était chauffée. C'était l'une des raisons de son succès et c'était vraiment partie en fait de ces images d'Épinal qui sont propagées vraiment pendant tout le 19e siècle, les personnes qui ne viennent à la bibliothèque que pour se chauffer, etc. C'est pas la seule raison, mais disons que c'est un petit peu un cliché qu'on retrouve dans toute la littérature de l'époque. Et cette salle de 1833 en fait on a très très peu d'informations sur elle et elle a très vite fermé à une date et pour des raisons qui demeurent inconnues. Peut-être était-elle liée en fait aux travaux que commence à connaître la Bibliothèque nationale de l'époque royale puis impériale. Et donc c'est vrai que la Bibliothèque nationale qui n'apporte pas encore ce nom-là, donc royale puis impériale, connaît donc au 19e siècle bien des bouleversements. C'est une bibliothèque qui a été désorganisée déjà à partir de la Révolution française où il y a eu en fait un afflux massif de documents qui ont enrichi les fonds de la bibliothèque mais qui ont créé aussi beaucoup de désordre parce que les fonds n'ont pas été tout de suite ni inventoriés, ni catalogués, ni quoi que ce soit. Les bâtiments sont vétustes et donc on sait qu'il faut vraiment réorganiser cette bibliothèque. Seulement les instabilités de régime, de gouvernement ne permettent pas, malgré la réunion de plusieurs commissions au cours de ce siècle, eh bien vraiment d'aboutir à quelque chose de concluant. Il faut attendre vraiment le Second Empire pour qu'il y ait une volonté de réorganisation qui s'inscrive dans une réalité. Et donc ça commence en 1858 lorsque l'État décide de confier à Prosper Mérimée la présidence d'une commission qui va étudier les problèmes de la bibliothèque impériale et comment mieux la réorganiser. À l'époque, le grand modèle bibliothéconomique, c'est la British Library, qui est en train d'être réorganisée par Antonio Panizzi. Et Prosper Mérimée connaît bien ce milieu londonien, connaît bien Panizzi et ce qu'il a pu faire. Donc c'est riche aussi de cette expérience qu'il aborde les problèmes de la bibliothèque impériale. Et parmi toutes les questions qui sont étudiées au cours des séances de la commission, eh bien, il y a celle de la séparation des publics et ce qu'ils appellent en fait la publicité à donner à l'établissement. Et en fait, on soumet la question au cours d'une séance en disant, est-ce que la bibliothèque impériale doit être ouverte à tous, ouverte à tout venant, ou bien est-ce qu'on doit y admettre que des personnes conduites par l'amour de l'étude et munies d'une autorisation ? Et les avis sont partagés, il y a à peu près une seule voix pour dire que voilà, il ne faut pas de séparation des publics du tout. Sinon, la plupart des personnes qui composent la commission, qui sont des fidèles soutiens du Second Empire, disent qu'il faut une séparation des publics et qu'il faut la création de deux salles. Une salle de travail pour les recherches érudites, les études sérieuses, ce qu'on appelle les travailleurs sérieux, et une autre salle ouverte à tout venant. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ce rapport Mérimée va être rendu, même s'il va y avoir un grand décret de réorganisation de la bibliothèque impériale, qui est le décret du 14 juillet 1858, où tous les points d'amélioration sont énumérés, il faut attendre longtemps, longtemps, jusqu'en 1866, pour voir en fait le comité consultatif de la bibliothèque impériale se poser la question véritablement et commencer à se dire qu'il va falloir créer cette fameuse salle publique de lecture. Donc c'est vraiment très tard. Juin 1866 uniquement, sans doute parce que l'exposition universelle de 1867 arrive et qu'on commence à se poser pas mal de questions sur le sujet, peut-être parce qu'on reprend les écrits de Gustave Roulant, de Victor Duruy, à ce moment-là ministre de l'instruction publique, il commence véritablement à s'intéresser. Seulement la réflexion qui va être menée, on a assez peu de documents, là encore c'est l'une des déceptions hein, finalement de cette étude, c'est qu'il n'y a pas énormément de sources consultables à l'heure actuelle. Il y a les registres des procès-verbaux du comité consultatif de la bibliothèque, il y a quelques registres, mais comme il n'y avait pas de prêt, il n'y a pas de registre de prêt, donc c'est un petit peu des éléments qui nous manquent. Ce qu'on sait, c'est que les conservateurs vont malgré tout reprendre ce qui est dit dans le rapport de la commission Mérimée, c'est-à-dire on prévoit 30 000 ou 40 000 volumes à terme pour cette salle. Au niveau des locaux, on se dit, bien, puisque la salle de travail nouvellement construite par Henri Labrouste va ouvrir, nous n'avons qu'à reprendre l'ancienne salle du département des imprimés, la plus ancienne, et en faire une salle publique de lecture. On commence aussi à se dire, malgré tout, quelle collection placer, comment savoir, voilà. Alors on se dit, on va procéder en prenant les doubles du département des imprimés, et puis on va procéder aussi un petit peu par voie d'échange avec des libraires que connaît bien la bibliothèque impériale, comme la maison Firmin Didot, etc. Et puis il y a quelques conservateurs qui disent, mais quand même, on va essayer de faire un petit peu des enquêtes, de demander au personnel quels sont les ouvrages les plus consultés. On va aussi voir avec la bibliothèque du Conservatoire des Arts et Métiers, quels sont les ouvrages qu'ils consultent, etc. Et on se met d'accord sur le fait qu'il faudra quand même pas mal de recueils d'ornementation, de livres à figures dans cette salle, pas mal d'ouvrages d'actualité aussi, pour montrer les derniers états de la recherche, de la science, etc. Et donc c'est intéressant en fait d'étudier toutes ces sources parce qu'on voit que petit à petit, à travers ce genre d'allusion à la bibliothèque du Conservatoire des Arts et Métiers, à travers l'idée des recueils d'ornementation, etc., il y a quand même une volonté de donner des documents pour un public aussi d'ouvriers désireux d'approfondir les connaissances de leur métier. Et en fait, en étudiant les sources, on a pu voir que finalement, cette salle publique de lecture, elle proposait des fonds qu'on pouvait classer à peu près comme ça. D'abord, des usuels, donc tout ce qui est manuel de grammaire, d'orthographe, dictionnaire, etc. Ensuite, des ouvrages plus de référence, comme l'histoire de France de Michelet. Il y a une volonté d'acheter des sommes, en fait, plutôt que des ouvrages individuels séparés. Acheter des grosses sommes. Et puis ensuite, des ouvrages plutôt scientifiques et techniques pour justement les ouvriers désireux d'approfondir les connaissances de leur métier. Et également des ouvrages classiques, des œuvres de Corneille, de Molière. Et c'est à peu près le gros du fond, finalement, pour cette salle qui est ouverte le dimanche. Et ça qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment une salle qui s'inscrit dans un contexte de développement des bibliothèques populaires par cette ouverture dominicale qui est aussi fondamentale. Et longtemps, quand je faisais mes recherches, je me suis demandé quelle était la place des romans. Parce que quand on voit les bibliothèques, le développement des bibliothèques populaires à cette époque, on sait que le roman occupe une place centrale. Donc là, qu'en était-il ? Finalement, il n'y a pas beaucoup d'indications sur le sujet, et c'est vraiment comme souvent dans la recherche, au détour d'un carton d'archives sur complètement autre chose, que l'on découvre l'élément que l'on cherchait depuis un moment. Et en l'occurrence, là, c'était la preuve que dans les années, mais déjà 1871 en fait, 1872 même, on sait qu'il y avait effectivement des romans qui étaient communiqués dans cette salle publique de lecture, mais des romans donc d'Alexandre Dumas principalement, de George Sand, et là il cite Dans son beau temps, ce qui était assez amusant également. Donc on sait qu'il y a eu communication, mais est-ce que c'est uniquement au moment de la Troisième République? Est-ce qu'il y avait aussi communication de romans sous le Second Empire? Ça reste un petit peu des questions qui se posent. En tout cas, cette salle publique de lecture, elle était vraiment séparée de la salle de travail d'Henri Labrouste, même par son entrée, puisqu'en fait les travailleurs de la salle Labrouste entraient par l'entrée de Richelieu qui est en face du square Louvois, et les personnes qui entraient dans cette salle publique de lecture, dite aussi salle B, entraient par la rue Colbert. Donc vraiment deux entrées séparées. Et très vite, en fait, finalement, cette salle a été perçue dans l'esprit du public comme une salle un peu des refusés, puisqu'il fallait faire une demande pour entrer dans la salle de travail du département des imprimés. Et les personnes qui n'avaient pas l'acceptation devaient finalement se rabattre sur la salle B. Donc souvent, il y a des lettres qui sont adressées à l'administrateur général Taschereau en disant, voilà, en regrettant de n'avoir pu aller dans la salle de travail, en l'accusant aussi de partialité, etc. Donc finalement, cette salle B, qui était encore une fois avec des doubles, avec des ouvrages reçus par voie d'échange, dans l'ancienne salle de lecture qui n'avait pas été rénovée, n'avait pas toujours été extrêmement bien perçue par le public. C'est une salle qui va évoluer, puisque sous l'administration suivante, l'administration de Léopold de Lille, il va y avoir quand même des travaux qui vont être entrepris, deux phases de travaux en 1881 et en 1898. Et puis la salle B est davantage ancrée dans les esprits de l'époque, donc il y a moins de critiques comme il pouvait en avoir par le passé, plutôt critiques sur les locaux, et puis une fois qu'il y a les travaux, moins de critiques quand même. Et puis il va y avoir un grand événement qui va arriver dans la fin du 19e siècle, qui va être l'acquisition des maisons faisant l'angle des rues Colbert et Vivienne, qui font que désormais la Bibliothèque nationale va former véritablement un quadrilatère autonome, ce qui n'était pas encore le cas. Et justement, dans cet emplacement nouvellement racheté, il va y avoir beaucoup d'interrogations. On se dit, est-ce qu'on ne va pas pouvoir construire une nouvelle salle publique, par exemple, ou bien un espace d'exposition, ou bien il y avait une volonté comme cela de peut-être créer une nouvelle salle publique dans cet espace. Et finalement, ce n'est pas la solution qui va tellement être retenue. Et on assiste dans la première partie du XXe siècle à une sorte de déclin de cette salle publique. Les collections ne vont pas être renouvelées. Et petit à petit, on va se demander si c'est véritablement à la Bibliothèque nationale d'avoir une salle publique ouverte à tous. C'est une réflexion qui déjà commence à la fin du XIXe siècle et qui va être reprise de manière beaucoup plus fréquente et régulière au cours du XXe siècle. D'autant que l'on a constaté que du projet initial, donc très contexte, texte bibliothèque populaire, proposer une salle ouverte à tous, aux ouvriers notamment désireux de s'instruire, d'approfondir les connaissances de leur métier. On a observé que finalement, petit à petit, ce sont plutôt les étudiants, les élèves des écoles spéciales, etc., qui ont constitué le lectorat de cette salle, qui finalement, notamment sous l'administration de Léopold de Lille, a perdu un peu sa vocation première. Et donc, au XXe siècle, on constate que cette salle qui n'a plus de collection très intéressante, dont les locaux sont finalement encore un peu vétuste et qui a perdu son public initial, n'a peut-être plus de raison d'être, et c'est vrai qu'elle va être fermée en 1935 en fait de manière définitive. Voilà, donc mon propos finalement dans cet ouvrage, c'était de retracer un peu l'histoire de cette salle publique de lecture dont encore une fois on sait finalement assez peu de choses parce que les sources manquent, mais c'était de montrer comment une institution patrimoniale comme la Bibliothèque nationale, qui normalement dans l'esprit de la plupart des lecteurs et du public au XIXe siècle était une institution éminemment savante, érudite, avec ses départements spécialisés, etc. Comment est-ce que finalement la Bibliothèque nationale elle-même avait participé à cette réflexion sur les bibliothèques populaires? Comment modestement elle avait créé quelque chose dans ses murs qui avait quand même perduré jusqu'au XXe siècle, bien qu'il y ait eu une évolution, comme je vous l'expliquais, au niveau des publics petit à petit.
Merci Marie. Alors effectivement, moi je trouve que c'est fondamental de savoir ce qui se passait en même temps que les bibliothèques populaires. On ne peut pas comprendre la naissance des bibliothèques populaires si on n'examine pas ce qui se passait alentour et pourquoi il y avait une telle frustration chez le peuple. Alors il faut mettre beaucoup de guillemets à peuple, mais pourquoi le peuple voulait donc des bibliothèques. Et l'expérience que raconte Marie me paraît très intéressante et moi j'ai un grand rêve, c'est qu'un jour Marie ou moi nous retrouvions dans les cartons des Archives nationales une lettre qui dise clairement que cette bibliothèque pour le tout venant a été créée pour peut-être contrer justement le développement des bibliothèques populaires. Alors je sais que Marie n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais moi je me pose beaucoup de questions. Alors d'une part parce qu'effectivement en 1867 à l'exposition universelle, les bibliothèques populaires vont être mises en valeur. L'empereur est désespéré, comme le disait Marie tout à l'heure, il est en train de se rendre compte qu'il n'a rien à offrir face à l'Allemagne, l'Angleterre, etc., qui sont en train de faire un effort d'éducation ou d'instruction, alors les mots ne sont pas les mêmes, et qu'il faut absolument qu'il monte des bibliothèques. Donc il va montrer d'une part tout ce qui est fait en matière de bibliothèque populaire, c'est-à-dire d'initiative privée, et puis il va pouvoir s'enorgueillir aussi peut-être de ce qui se fait à la Bibliothèque nationale. D'autre part, moi j'ai d'autres sources que celles de Marie, c'est vrai, on trouve dans le Charivari, dans le Journal Amusant, etc., des récits de journalistes qui s'en prennent très violemment à ces efforts de la Bibliothèque nationale ou impériale, en disant mais on nous prend vraiment pour des imbéciles. Il faut passer une sorte d'examen pour avoir le droit d'aller lire, pour qui nous prend-on et surtout que nous propose-t-on. Donc il y a des descriptions mais absolument réjouissantes de bibliothécaires en pantoufles en train de contrôler les lectures et de donner des choses que ne veulent pas les ouvriers. C'est bien ça qui est dit clairement, c'est voilà, les ouvriers désirent lire autre chose que les Dumas ou que les Georges Sand de bonne manière.
Tout à fait. Alors juste pour une précision, il n'y avait pas d'examen en fait pour entrer dans la salle B du tout. L'examen c'était pour entrer dans la salle de travail du département des imprimés où en fait il y avait plusieurs étapes à suivre. La première étape c'était d'écrire une lettre à l'administrateur général en expliquant ses recherches et déjà c'était une sorte de première barrière ou de premier test puisque les lettres qui étaient par exemple truffées de fautes d'orthographe n'étaient pas retenues et la personne qui l'avait écrite donc était invitée à se rendre dans la salle B où il y avait suffisamment de dictionnaires et de manuels d'orthographe pour compléter son instruction. L'autre étape c'est que si cette première barrière de l'écrit avait été remportée avec succès, l'administrateur regardait à ce moment-là, mais ça c'est vraiment sous le Second Empire, sous Taschereau, parce que sous l'Opale de Lille c'est pas tout à fait la même chose. Taschereau regardait si la personne figurait sur la liste de la Société des gens de lettres ou de la Société des auteurs, etc. Donc il y avait vraiment une nécessité d'appartenance à un groupe qui reconnaissait la personne en tant qu'écrivain ou en tant que journaliste aussi, etc. Et après seulement, donc il y avait l'autorisation d'entrer dans la salle de travail du département des imprimés. On constate sous la Troisième République une plus grande reconnaissance des diplômes universitaires. Donc tous les professeurs, etc., entrent beaucoup plus facilement dans la salle de travail. La salle B, vraiment, c'est ouvert à tous, mais parce que quelquefois, on n'a pas réussi l'examen d'entrée de la salle de travail.
Tout à fait. Alors, à ce stade, je pense qu'il faudrait quand même qu'on dise ce que c'est qu'une bibliothèque populaire. Et malheureusement, à la suite de l'ouvrage et du colloque, on ne le sait toujours pas. Ça, c'est un de nos grands soucis, mais c'est très intéressant. Je me souviens que quand je disais justement à mes compagnons de promotion, je travaille sur les bibliothèques populaires, il y en a qui prenaient un air dégoûté déjà, qui faisaient la grimace. Rien que le mot bibliothèque populaire a toute une connotation poussiéreux, désuète, c'est pas la vraie bibliothèque, etc. Alors, c'est vrai qu'on accole un mot qui est savant, bibliothèque, l'épithète populaire qu'on peut interpréter de différentes manières. Il y a le populaire très péjoratif, ou alors il y a le populaire, et ça a d'ailleurs beaucoup coûté aux bibliothèques populaires au début du XXe siècle, il y a le populaire dans le sens un peu infamant, c'est-à-dire on cantonne les lectures du peuple, on lui demande d'aller dans des bibliothèques spécifiques, un peu comme d'ailleurs la bibliothèque du tout venant. Donc en fait, il y a vraiment toute une étiquette péjorative qui est accolée aux bibliothèques populaires. Alors moi je dis aujourd'hui quand même, à l'issue de tout ce qu'on a pu faire, que la vraie bibliothèque populaire, c'est non seulement celle qui prête au peuple, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y ait quand même au XIXe siècle des classes sociales et des gens qui soient désignés comme appartenant au peuple, mais qui également s'intéressent aux motivations du peuple. Et là, on écarte un certain nombre de bibliothèques. D'où le fait que la bibliothèque impériale n'est pas forcément, dans sa salle du tout venant, une bibliothèque populaire, parce que ce n'est pas le peuple qui est impliqué dans le choix et la gestion des livres. Bien au contraire, on lui dicte ses lectures. J'ai trouvé, par exemple, des phrases assassines sur le fait qu'on leur prête les manuels Roret. Alors vous connaissez ces manuels, le manuel du serrurier, le manuel du parfait domestique, le manuel des finances, etc. Ils disent, voilà, ben, quand on arrive à la bibliothèque, on aimerait bien qu'on nous sorte autre chose que les manuels Roret. On veut lire, comme tout le monde, des livres intéressants. Voilà. Donc une bibliothèque populaire, ce serait idéalement celle-ci. Ceci dit, depuis le début du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française, et tout au long du XIXe siècle, effectivement, il y a un rêve de bibliothèque dite populaire agité par toutes sortes de personnes. C'est-à-dire que vous avez d'une part le peuple, effectivement, qui dit « on voudrait des bibliothèques pour nous ». Je ne vais pas vous retracer l'histoire du livre et de la bibliothèque, mais vous comprenez bien qu'en ce début du XIXe siècle, le livre est trop cher pour le peuple. Il ne peut pas acheter un livre. Et deuxièmement, il n'accède pas aux bibliothèques. Marie a rappelé de manière extrêmement maligne tout à l'heure que la bibliothèque, elle doit ouvrir le dimanche si le peuple peut aller lire. Et c'est ce que vont faire aussi les bibliothèques populaires. Elles vont ouvrir le soir et elles vont ouvrir le dimanche. Alors, selon leurs orientations, après ou pendant la messe. Ça, évidemment, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, voilà, le peuple voudrait lire comme tout le monde. Et ça, on trouve des passages extrêmement intéressants. Le rêve du peuple, c'est d'aller au bord de la rivière, sous un arbre, lire un livre, comme le bourgeois. Et c'est bien précisé, et non seulement comme le bourgeois, mais avoir le même livre que le bourgeois. Car le peuple, souvent, on trouve aussi cette demande, dit « nous, on ne veut pas d'édition à bon marché ». On veut le même objet que les bourgeois. Pourquoi est-ce qu'on nous cantonnerait à des éditions bon marché, à du papier broché de mauvaise qualité, voire à des éditions qui ne sont pas révisées? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le même accès, alors non pas à l'éducation, mais à l'instruction? C'est une demande qui est très présente. Alors, dans la décennie 1860, eh bien, il va y avoir un moment absolument magique. Et c'est de là qu'est née la Bibliothèque des Amis d'Instruction, qui va servir de modèle aux bibliothèques populaires suivantes et entraîner cette explosion, puisque la Bibliothèque des Amis d'Instruction naît en 1861, et à la fin du XIXe siècle, vous avez environ une dizaine de milliers de bibliothèques populaires en France. Donc c'est une vraie explosion en une quarantaine d'années. Alors, pourquoi? Parce que Marie l'a rappelé tout à l'heure, eh bien, l'empereur est en quête de légitimité, il a perdu son électorat catholique pour des raisons que vous connaissez, il est en train donc de chercher du côté de l'électorat plutôt ouvrier, et en plus il revient là à ses amours de jeunesse, il était déjà intéressé par la question sociale, donc il se dit « je vais regagner mon électorat ouvrier en étant un peu plus libéral, en donnant un peu plus l'accès à des choses qui jusque-là sont refusées aux ouvriers ». Il se dit aussi, on en parlait tout à l'heure, qu'à l'exposition de 1867, il faut présenter un visage plus moderne de la nation française, et par conséquent son premier effort va porter sur les bibliothèques scolaires. Vous voyez, on revient à ce que je vous disais au départ. Les bibliothèques scolaires sont le point de départ. Doter chaque école au moins d'une planche ou deux où il y ait quelques manuels que les élèves puissent emporter le soir, parce que c'était ça le problème. Les petits apprenaient dans la journée, ils avaient éventuellement un manuel ou deux de lecture, etc., mais ils n'avaient pas de livres pour compléter leur lecture. C'est donc dire combien finalement l'enseignement qu'ils recevaient n'allait pas bien loin, puisqu'ils ne pouvaient pas le développer ensuite. Il y avait aussi la question des jeunes adolescents qui étaient très vite mis sur le marché de l'emploi et qui pourtant auraient eu besoin de compléter leur instruction avant de devenir adultes. Donc c'était non seulement à destination des enfants, mais c'était aussi à destination des adolescents, et finalement, eh bien, les adultes également ont emprunté ces ouvrages dans ces premières bibliothèques scolaires. Donc on a demandé un effort à tout le monde, les instituteurs bien entendu ont dû s'y coller, mais avec plaisir la plupart du temps, ils étaient vraiment conscients de la mission qu'ils remplissaient en gérant cette bibliothèque scolaire. Les éditeurs ont été priés évidemment de faire des ouvrages à bon marché pour ces bibliothèques scolaires, qui étaient donc envoyées par le ministère de l'Instruction, et puis même les auteurs ont été mis en collaboration. Pour ça, c'est un mouvement très important dont on pourrait vous parler pendant des heures, c'est-à-dire que les auteurs doivent écrire pour ces fameuses bibliothèques scolaires. Du coup, pendant longtemps, on a confondu bibliothèques scolaires et bibliothèques populaires. Pourtant, ce n'est pas la même chose. Ces bibliothèques scolaires, elles sont bien dans les écoles. Or, ce que veulent les gens, c'est pouvoir emprunter des livres, mais des livres qui soient des livres à leur niveau d'adulte et qui représentent la même instruction. Il y a une frustration dans le peuple qu'on connaît bien, qui est de dire, voilà, nous en 1848, on n'a pas eu les mêmes billes que Lamartine, etc. On ne possède pas le même oratoire, on ne possède pas la même instruction, on voudrait désormais être capable de parler de sciences politiques, de sciences philosophiques, etc. Donc il y a un désir d'instruction très fort. Non seulement ils veulent emprunter des livres, mais ils veulent emprunter des livres instructifs. Autour de ce mouvement qui vient donc du peuple, vous avez également d'autres personnes qui sont intéressées. Vous avez une bourgeoisie philanthrope qui se dit effectivement, il faut lire. Et là, ce qui est dit et redit, c'est que la lecture va... Alors c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais que la lecture est un loisir. Et que ce loisir va distraire d'une infamie qui est l'alcoolisme. Vous savez combien l'alcoolisme était présent au XIXe siècle. Donc l'image, tout à l'heure tu parlais d'image d'Épinal, mais là aussi il y a une autre image d'Épinal qui est la femme qui le soir lirait, entourée de sa petite famille, son mari qui ne serait pas allé au cabaret, et ses enfants qui écouteraient. Et tout le monde s'instruirait et progresserait. Et cette bourgeoisie se dit ainsi... L'ouvrier, d'une part, va faire son apprentissage démocratique, s'il doit voter un jour, autant qu'il vote en bonne conscience, et d'autre part, eh bien, il progressera dans son instruction. Et puis vous avez une autre partie de la bourgeoisie qui a envie que les ouvriers lisent, mais là c'est pour une autre raison, c'est pour que les ouvriers soient plus utiles dans leur travail. Parce qu'on a un développement très fort à ce moment-là des machines, et il faut que les ouvriers soient capables de lire les modes d'emploi, soient capables de tenir une comptabilité, toutes choses qu'on ne leur demandait pas avant. Donc il faut vraiment, là aussi, pour une partie de la bourgeoisie, que les ouvriers progressent. Donc il y a ce rêve de lecture qui se fait, et un faisceau d'opinions, mais alors très mêlées, qui va se faire. C'est la seule fois qu'on va trouver à la fois des francs-maçons, des évêques, des socialistes, des saint-simoniens, des gens de l'aristocratie, des ouvriers qui fondent la même bibliothèque. J'ai le cas à Vernon, par exemple. À Vernon, vous avez à la fois des ouvriers, mais le duc d'Albufera. C'est pas rien, quand même. Ces mêmes personnes vont être à l'origine de la fondation de cette bibliothèque. C'est un moment magique qu'on ne retrouvera plus par la suite. Dans la décennie 1880, au contraire, et après je te laisse la parole Marie, excuse-moi, au contraire, il va y avoir un affrontement, puis alors qu'on va trouver très dur jusque dans les années 30, entre des bibliothèques confessionnelles dites populaires et des bibliothèques républicaines laïques. Parce que là aussi, la lecture et la bibliothèque va être un objet d'affrontement. En 1936, lors du Front populaire, vous avez des articles dans La Croix qui dénoncent férocement le fait qu'avec le loisir, l'ouvrier risque de lire et avoir des mauvaises lectures. Donc il faut lui donner des bonnes lectures. Donc ce moment magique dont je vous parle a permis la naissance de la bibliothèque des Amis d'Instruction.
C'était simplement également des petites digressions en fait au cours de ton exposé, effectivement, Agnès. Donc ce qui est intéressant également dans le volume, quand vous le lirez, c'est de voir qu'il y avait en amont, puisqu'on a beaucoup parlé effectivement des années 1860, et c'est vrai que ce sont les années les plus importantes, c'est vraiment le début et l'explosion des bibliothèques populaires, donc c'est vraiment cette date qu'il faut retenir. Mais il y avait bien sûr des prémices, comme toujours hein, dans ce cas, déjà dès la fin du 18e siècle, début 19e siècle, avec, vous verrez, la communication par exemple de Loïc Chalmel, qui étudiait en fait le peuple et le livre, un trafic de livres au 18e siècle. Il étudie notamment l'action d'un pasteur qui était Jean-Frédéric Oberlin dans un petit village d'Alsace qui s'appelait le Banc de la Roche, et qui déjà vraiment tout début 19e siècle avait conscience que la population de ce tout petit village avait besoin de livres, qui a essayé en fait d'acheter sur ses deniers personnels au départ des ouvrages, qui a essayé de développer donc un droit de prêt, tout en responsabilisant en fait les personnes qui empruntaient également. Et donc il avait développé vraiment les premières bibliothèques populaires, qui n'avaient pas encore du tout ce nom-là, mais disons que c'était des premières initiatives très avant-gardistes qui existaient déjà par donc ce pasteur par exemple qui proposait ses ouvrages, d'autant plus que bon, on est dans le courant de intérêt croissant pour la nature, pour les sciences naturelles, pour la classification, et donc c'est aussi quelqu'un qui proposait de fabriquer des herbiers avec ses paroissiens, enfin toute une dynamique d'instruction vraiment très intéressante et vraiment très avant-gardiste. Et puis pour revenir aussi sur ce que tu disais, Agnès, que justement l'alcoolisme, voilà, était l'un des fléaux des classes populaires, ouvrières, ce dont avaient bien conscience les philanthropes, et notamment les philanthropes libéraux. C'est aussi un point qui est notamment très bien exposé dans la communication de Carole Christen, qui en fait a étudié la création des idées de bibliothèques populaires et en même temps la création des premières caisses d'épargne dans les années 1830, avec notamment les frères Benjamin et François de Lesserre, dont le père avait une banque en fait, et qui, dans la mesure où pour eux l'ouvrier était par nature imprévoyant, eh bien il fallait essayer de trouver un remède contre cette imprévoyance en créant des caisses d'épargne, et allait de pair également l'occupation de son temps libre et l'instruction aussi de ces classes par l'idée de bibliothèque populaire. Alors évidemment, dans ces années-là, aucune réalisation concrète n'a été faite, mais c'était une réflexion, et une réflexion notamment très originale, de lier ainsi caisse d'épargne et bibliothèque populaire. Donc voilà un peu pour, par exemple, en prenant dans le volume, deux initiatives très avant-gardistes avant donc 1860 et l'explosion de ces bibliothèques populaires.
Et il y a un rapport très très net géographique et politique entre justement les frères de Lesserre et la naissance des bibliothèques des Amis de l'Instruction. Donc cette idée hyper drôle, c'est vrai que ça nous a fasciné pendant le colloque, l'ouvrier qui le matin va déposer son argent à la caisse d'épargne et l'après-midi va à la bibliothèque. Voilà. C'était ce qu'imaginaient les philanthropes pour le bien-être des ouvriers. Donc dans la décennie 1860, on a un personnage qui va apparaître, qui est très intéressant, mais il n'est pas seul, c'est Jean-Baptiste Girard, qui est vite nommé le Franklin de la France. Alors vous voyez pourquoi, hein, évidemment. Alors ça, c'est une référence qui est très intéressante, qu'on a développée dans tout un chapitre du livre, la référence à ce qui se fait à l'étranger. Marie en a parlé tout à l'heure. Cette référence, elle est faite à la fois pour les bibliothèques patrimoniales, pour les grandes bibliothèques, mais elle est faite pour les bibliothèques populaires. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'il y ait tout un passage sur les bibliothèques populaires à l'étranger. Alors non seulement autrefois, hein, donc les bibliothèques en Angleterre, les bibliothèques en Belgique, mais aussi aujourd'hui, parce que quand on parle des bibliothèques populaires, en fait, eh bien, vous avez beaucoup de gens qui nous disent oh, « mais je connais quelque chose du même genre qui se passe en Afrique, je connais quelque chose du même genre qui se passe en Amérique latine, etc. » Donc on est allé jusqu'à l'Argentine pour faire le parallèle avec les bibliothèques populaires d'aujourd'hui, et c'est vraiment frappant de voir qu'en fait, on retrouve les mêmes motivations et le même empirisme très intéressant qui conduit à la création de véritables bibliothèques.
C'est parti en fait des originalités de ce volume de vouloir déjà étudier le terme de bibliothèque populaire dans toutes ses acceptations, si l'on peut dire, et également d'étudier sur une période donc 19e, à partir de la naissance véritablement jusqu'à nos jours, en France et aussi à l'étranger, ce qui est très rare en fait. Jusque-là, on n'avait vraiment pas ni fait le lien, ni étudié des initiatives étrangères, donc c'est vraiment aussi l'une des grandes richesses de l'ouvrage.
Donc je vous disais, le Franklin, le nouveau Franklin, le Franklin français, c'est donc Jean-Baptiste Girard. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce Jean-Baptiste Girard a été présenté pendant longtemps dans l'histoire de la bibliothèque des Amis d'Instruction comme quelqu'un d'arrivé complètement analphabète à Paris et qui, 10 ans plus tard, aurait été capable de créer des bibliothèques. Bon. Mais vous voyez bien pourquoi il y a cette légende, pourquoi il y a cette sorte de mythologie. Hein, ça serait tellement fascinant qu'un ouvrier arrivé analphabète ait créé les premières bibliothèques de prêt à Paris. Évidemment, la légende se transmet et perdure. J'entends encore parfois les bénévoles la raconter. Bon, ce n'est pas grave, je les laisse faire dans la mesure où finalement, évidemment, Jean-Baptiste Girard venait d'un milieu modeste, c'est vrai. Il venait de la Haute-Marne, d'un petit milieu de vignerons, et effectivement, c'était un ouvrier lithographe. Donc on peut laisser raconter ça si ça doit donner un petit plus à l'histoire de la bibliothèque et la rendre un peu plus magique aux personnes qui la visitent. Voilà. Donc en fait, Jean-Baptiste Girard, ce qu'il a de passionnant et de très intéressant, c'est que c'est un socialiste. Il a été actif dans les clubs en 1848. Il a été arrêté pour association d'associations. Donc il était associationniste. Ça, j'ai réussi à le dire. Donc il était associationniste. Et il a été arrêté, emprisonné quelques mois, et toujours selon la légende, parce que c'est très joli là aussi, à Sainte-Pélagie, il aurait, en fréquentant la petite bibliothèque de Sainte-Pélagie, conçu le dessin de faire des bibliothèques populaires pour les ouvriers. Alors, ce n'est sans doute pas vrai, mais ce qui est intéressant et ce qui est avéré, c'est qu'en fait, Jean-Baptiste Girard suivait les cours de l'association philotechnique. Il y avait deux grandes associations à Paris, la philotechnique et la polytechnique, qui donnaient des cours aux ouvriers. Et on revient à cette bourgeoisie, cette élite philanthrope dont nous vous parlions il y a quelques minutes, qui donnait donc des cours. Seulement, ce que n'avaient pas compris ces philanthropes, c'est que lorsque l'ouvrier revenait chez lui et qu'il relisait ses notes de cours, parce que ça, on en a des témoignages, eh bien, il n'avait aucun livre pour retravailler son cours. Donc c'était très vite fini. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de bibliothèque ? Ben, tout simplement, on a par exemple dans un des fondateurs, Auguste Perdonnet, qui dit « Oui, j'en suis désolé, j'avais pensé que ce n'était pas possible, je pensais que les ouvriers ne rapporteraient pas les livres. » Et vous voyez, il y a toujours cette même connotation, un ouvrier n'est pas capable de rapporter un livre s'il l'emprunte. Donc lui, Jean-Baptiste Girard, va dire ben, « Non, il faut qu'on puisse prêter les ouvrages. » Et il va s'engouffrer dans cette brèche dont je vous parlais tout à l'heure et dit « Tiens, puisque maintenant on a le droit de créer des bibliothèques scolaires, on peut peut-être créer des bibliothèques populaires. » Et il va profiter de son savoir-faire, puisque je vous ai dit qu'il était spécialiste en association. En plus, il sait très bien jusqu'où on peut aller et ne pas aller, puisqu'il a fait de la prison. Donc il va faire juste ce qu'il faut. Il sait qu'il faut déposer des statuts pour demander une bibliothèque populaire et que ce soit accepté. Il sait aussi par expérience que si on ne s'entoure pas d'un réseau puissant, eh bien, là aussi, on ne continuera pas plus. Vous aviez des gens qui avaient été arrêtés dans les années 1830 parce qu'ils avaient essayé de fonder des bibliothèques. C'était interdit, ça tombait sous le coup de la loi des associations. Donc lui, sait très bien jusqu'où il faut aller et il va donc peaufiner ses statuts et créer donc la fameuse bibliothèque des Amis d'Instruction. Alors, elle est passionnante puisque d'abord, c'est une association. Donc tout le monde est membre, tout le monde appartient au conseil. À l'Assemblée Générale, et tout le monde peut élire le Conseil, mais tout le monde peut être aussi membre du Conseil. La deuxième originalité, c'est le prêt à domicile pour tous, quelle que soit l'origine sociale, et surtout les hommes comme les femmes. Alors ça, c'est aussi une autre avancée, hein, parce qu'il y aurait toute une histoire à raconter sur les femmes au XIXe siècle dans les bibliothèques. C'est pas toujours facile pour une femme d'entrer dans la bibliothèque, sauf si elle a des protections. Or là, Jean-Baptiste Girard et ses amis décident que les femmes vont être des sociétaires au même titre que les hommes. Et pour favoriser leur adhésion, comme les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes, eh bien la cotisation sera de moitié. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça fait partie aussi des avancées qu'a permis la bibliothèque des Amis de l'Instruction pour une lecture libre des femmes. Parce que dites-vous bien qu'à la même époque, il y avait des bibliothèques paroissiales qui prêtaient aux femmes en dehors des horaires de la messe, mais des ouvrages soigneusement sélectionnés. Alors que là, elles peuvent emprunter des romans, des ouvrages d'instruction, tout ce qu'elles veulent. Ensuite, nouveauté incroyable, on peut suggérer les acquisitions. Vous imaginez, hein, au XIXe siècle, déjà, quelque chose dont les municipales vont s'enorgueillir au XXe siècle, eh bien ça existait déjà. Au XIXe siècle, il y avait déjà des cahiers de suggestions, on en a encore dans les archives, dans les bibliothèques populaires, en tout cas chez les Amis d'Instruction. Ensuite, il est dit clairement, et ça aussi, ça va à l'encontre de beaucoup de choses qui sont dites au XIXe siècle dans une partie de la bourgeoisie, on dit clairement qu'on peut lire pour s'instruire, mais c'est énoncé dans les statuts, on peut aussi lire pour se délasser. Ça, c'est formidable, parce que ça veut dire que c'est la porte ouverte à l'acquisition de romans, y compris de romans populaires. Or, vous le savez, il y a toute une partie de la bourgeoisie qui pense qu'on ne doit pas lire de romans, et encore moins quand on est un ouvrier, parce que ça donne des rêves un peu fous, et qu'après, on ne travaille plus. Alors, il n'y a pas que Madame Bovary, il y a aussi les ouvrières, il y a toute une parodie des concierges, des domestiques en train de lire, et on dit que ce n'est pas bon pour elles, parce qu'après, elles répondent à leur patron, elles ont des envies de voyage, elles ont des envies de belles toilettes, et elles ne vont plus travailler. Or là, on dit ben non, elles peuvent quand même emprunter des ouvrages. Donc c'est la première bibliothèque populaire, celle dont je vous parlais tout à l'heure, par et pour le peuple. Voilà pourquoi hein, la bibliothèque des Amis d'Instruction, en 1861, marque un tournant. Et ce qui est important, c'est qu'elle va être suivie. Il va y en avoir partout dans Paris. Il va y en avoir dans la région parisienne. Nous avons une intervention très pertinente dans l'ouvrage sur la bibliothèque populaire d'Asnières pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a également été fondée par Girard, mais à la fin de sa vie. Et il va y en avoir également partout en France. Et surtout, les autres bibliothèques populaires vont écrire pour demander à la bibliothèque des Amis d'Instruction comment elle a pu faire pour avoir des statuts, comment elle s'y est prise pour prêter les livres. Et ça va devenir un modèle via un périodique qui est le bulletin des bibliothèques, puis le bulletin de la société Franklin, qui donne des conseils, qui dit voilà, vous devez faire un règlement, vous devez faire un catalogue, vous devez demander des autorisations. Et j'ai tendance à dire que ce sont un peu les débuts de la véritable bibliothéconomie qui se font à ce moment-là, parce qu'ils doivent tout inventer. Ils doivent inventer, par exemple, les amendes. Alors, officiellement, bien entendu, tout le monde rapporte les livres, sauf qu'ils se trouvent évidemment confrontés à un cas de figure normal, les gens qui ne rendent pas leurs livres. Alors, on les voit bricoler. Ils commencent par faire des petits billets, qu'on retrouve dans les registres, tout à fait artisanaux, et puis après, ils vont inventer le carnet à souche pour les amendes. Ils vont aussi se dire, il faut faire un catalogue, parce que le lecteur a peur. Quand il arrive dans la bibliothèque, il ne sait pas quoi demander. Donc si on lui fournit un catalogue, il va le regarder tranquillement chez lui et il reviendra ensuite à la bibliothèque en disant « je désire tel ouvrage ». Et enfin, il y aura un livret de sociétaire qui va permettre, bien entendu, de noter les emprunts, les retours, les cotisations. Parce qu'on cotise à la bibliothèque des amis d'instruction, je vous l'ai dit tout à l'heure pour les femmes, ça c'est une autre question fondamentale qui est « est-ce qu'on doit ou non faire payer pour emprunter des livres ?» et qui les a beaucoup agités. Et en tout cas, la bibliothèque des amis de l'instruction, et ça leur sera beaucoup reproché par la suite par les inspecteurs des bibliothèques, on décide qu'il faut fidéliser le lecteur et surtout le responsabiliser et lui montrer qu'il est l'égal de tous par le paiement d'une cotisation. On se dit, voilà, s'il ne paie pas, il va avoir l'impression qu'on le méprise, qu'on lui donne de la culture comme ça, mais il va soupçonner qu'on ne lui donne pas tous les livres. Donc on le fait payer et on le fait participer aux acquisitions. Alors très rapidement, je vous le disais tout à l'heure, Troisième République, c'est à la fois une explosion des bibliothèques, mais des bibliothèques populaires très différentes les unes des autres, donc on part un petit peu dans tous les sens. Et puis, ce qui est intéressant dans cette période, et là on a une intervention dans le livre qui ne faisait pas partie de l'ouvrage et qui est fondamentale, qui est celle d'Ine Bouchareb. Voilà. Alors parce qu'elle est arrivée un peu tard dans l'histoire, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans l'ouvrage, elle n'a pas pu y participer, mais par contre, dans le colloque, elle est dans l'ouvrage et c'est très intéressant parce qu'on comprend mieux pourquoi, en fait, on a cette image désuète des bibliothèques populaires, c'est-à-dire qu'elle explique comment on a glorifié la lecture publique en faisant des bibliothèques populaires un repoussoir. Alors c'était plutôt facile, pourquoi ? Parce que les bibliothèques municipales à Paris ont vite imité le système du prêt. Elles se sont dit, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Il faut prêter les ouvrages. Donc elles se sont mises à prêter à leur tour et elles ont eu davantage d'argent que les bibliothèques populaires. Ensuite, il y a eu la professionnalisation des bibliothécaires. Et ça aussi, ça a été un coup dur pour les bibliothèques populaires. C'est là qu'on s'est mis à dire, mais dans les bibliothèques populaires, il n'y a que des vieilles bibliothécaires à chignon qui ne connaissent rien aux livres, qui prêtent n'importe quoi. Alors que face à ça, regardez, vous avez des professionnels dans la lecture publique. Et puis les librairies, bibliothèques publiques, se sont mises à avoir aussi des salles aérées, plus fonctionnelles, des tables, etc. Alors que les bibliothèques populaires n'avaient pas le moyen, bien entendu, de faire ça. Donc, peu à peu, ces bibliothèques populaires se sont mises à servir de repoussoir et on a oublié un petit peu tout ce qu'elles avaient pu procurer à la lecture publique.
Il y a un personnage, évidemment, qu'il faut nommer parce qu'il a beaucoup fait, justement, pour que ces bibliothèques populaires soient considérées comme des objets désuets. C'est Eugène Morel qui a été notamment à l'honneur à l'ENSIB il y a quelques années puisqu'il y a eu toute une journée d'études organisée en décembre 2010, je crois, que vous pouvez trouver en ligne, etc., sur la figure d'Eugène Morel. Et l'un de ses slogans favoris, c'était « À bas les populaires !» Voilà, pour justement dire que ces bibliothèques étaient complètement obsolètes, qu'elles ne correspondaient qu'à une seule catégorie de public. Et donc dans son ouvrage La librairie publique, il rejette même le terme en fait de bibliothèque. Il veut véritablement tout changer, les deux termes de l'expression bibliothèque populaire, aussi bien donc l'un que l'autre. Donc il a effectivement beaucoup écrit et beaucoup œuvré aussi pour ce dénigrement un peu des bibliothèques populaires. Il fallait le mentionner aussi.
Oui, alors, et je dois aussitôt contrebalancer un petit peu. C'est très intéressant, c'est un personnage fascinant, Morel, puisqu'à la fin de sa vie, eh bien, devinez ce qu'il fait, il s'occupe de bibliothèques populaires. Mais c'est un personnage qui est vraiment à étudier très profondément. On avait commencé lors des journées Eugène Morel, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, en fait, il veut appliquer ses méthodes aux bibliothèques populaires, en particulier le catalogage, donc la classification d'Iwe. Donc, c'est c'est la première chose qu'il va faire dans les bibliothèques populaires. Et puis ensuite, il va essayer de leur redonner un dynamisme. Donc c'est assez mignon, je trouve, finalement, parce qu'on a l'impression qu'il a presque honte de ce qu'il a dit.
C'est
un provocateur. Et qu'il s'est rendu compte que sa phrase avait été trop loin et été reprise. Et effectivement, elle est reprise jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on cite toujours cette phrase un petit peu hors contexte. Et du coup, il a terminé son existence en s'occupant de bibliothèques populaires. Et je trouve ça vraiment magnifique.
Il y a de la provocation et de l'outrance, en fait, dans ce slogan. Parce que de toute façon, quand on lit les écrits de Morel, on sent qu'il y a un goût pour les effets de style, un petit peu là. Il avait une certaine aisance d'écriture aussi, mais c'est pas toujours très structuré, hein, tous ses ouvrages, etc. Donc je pense que voilà, c'était aussi une manière de faire une phrase choc un petit peu, mais il ne pensait pas forcément à ce point-là, voilà, qu'il fallait détruire les bibliothèques populaires.
Oui, mais les dégâts étaient là. Donc dans les années 70 à 80, 1970-1980, toutes les bibliothèques populaires disparaissent. On en trouve quelques-unes encore, maintenant on m'en signale, hein, qui ont fermé en 1990-2000, mais bon, c'est vraiment très ponctuel, sauf la bibliothèque des Amis de l'instruction du 3e arrondissement. Donc c'est pour ça qu'elle est le point de départ et le point d'arrivée, évidemment, de ce qu'on vous raconte. Voilà. Alors, elles disparaissent, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est-à-dire qu'au moment de leur disparition, vous avez d'une part Noé Richter qui publie Les bibliothèques populaires, qui est un excellent ouvrage, mais Noé Richter se cantonne plutôt à une étude de l'imprimé, et quand il utilise les archives, ne donne pas forcément ses sources. Donc il y avait déjà une première lacune à combler aujourd'hui, qui était aller plus loin dans les archives, en tout cas, et dans donner les sources aux uns et aux autres quand on veut travailler sur les bibliothèques populaires. Tu voulais dire quelque chose.
Donc comme on disait, voilà, les bibliothèques populaires effectivement commencent à disparaître entre les années 70 et 90, etc. Mais donc nous avons aussi une contribution dans l'ouvrage qui est particulièrement intéressante, c'est celle de Claude Collard, qui a étudié en fait la suite de la bibliothèque populaire de Chalon-sur-Saône à travers notamment l'une de ses activités et l'une des activités qu'ont développé aussi beaucoup les bibliothèques populaires, que sont les conférences en fait. Des conférences qui ont continué jusque dans les années 70, au moins pour cette bibliothèque de Chalon-sur-Saône. Donc c'était aussi nécessaire de mentionner là pour montrer voilà, qu'il y avait une continuité malgré tout jusque des années très avancées du XXe siècle.
Et en 1985, vous avez Pascal Marie qui intervient donc dans le livre de Pierre Nora, Les lieux de mémoire, et qui consacre la bibliothèque des Amis d'instruction comme un lieu de mémoire. Alors, c'est à la fois très bien entendu, parce que ça fait la notoriété de l'endroit, et puis à la fois, comme je vous le disais tout à l'heure, ça le fossilise peut-être un peu, ça pose peut-être un peu question, d'autant plus que qu'est-ce que c'est qu'un lieu de mémoire, hein, donc vous voyez, transmission de quoi, etc. Donc c'est intéressant, mais ça a un petit peu bloquer la bibliothèque sur cette image-là. Voilà. Alors, 30 ans après, qu'est-ce qu'a apporté le colloque et le livre ? Bon, d'abord, ce colloque, il a enregistré les progrès possibles de la recherche grâce à la mise en ligne des documents numérisés et à Internet, et il a encouragé les recherches. Ça, c'est très important. Ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que 30 ans après, les recherches, par rapport à ce qu'a pu faire Noé Richter, sont fondamentalement différentes. Il y a des fonds qui émergent par le biais aussi de la numérisation. On peut lire beaucoup de presse, alors que ce soit par Gallica ou d'autres numérisations aussi, hein, je pense par exemple à la presse Rhône-Alpes, on trouve beaucoup de choses dedans. Donc ça, c'est passionnant. Dès qu'on met le mot bibliothèque populaire dans un moteur de recherche, on trouve plein de choses. Et ça va faire beaucoup avancer, je pense, la recherche sur les bibliothèques populaires. Donc c'était bien. Et ce qu'on espère, c'est évidemment inspirer de nouvelles recherches sur d'autres bibliothèques populaires, puisqu'on sait qu'il y a encore des archives qui se cachent, puisqu'on sait qu'il y a encore des documents à numériser. Beaucoup de choses à faire, donc, de ce côté-là. L'ouvrage, par son titre, et j'en remercie là aussi les presses de l'ENSIB, donne aux bibliothèques populaires, me semble-t-il, toute leur place désormais, et c'est important aussi, parce que vous avez vu tout à l'heure le titre de Noé Richter, c'était Les bibliothèques populaires. Or, le titre qui m'a été proposé, et j'ai dit, bah oui, banco, c'est celui qu'il faut, c'est Des bibliothèques populaires à la lecture publique. Pourquoi banco, c'est ce qu'il faut? Parce que je pense que désormais, on peut effectivement faire table rase de ce moment où la lecture publique a un peu écrasé les bibliothèques populaires pour faire le la renaissance, la différence, etc. Mais on sait maintenant qu'il y a une continuité, on peut en parler. Donc ça, c'est intéressant d'avoir montré la continuité dans le titre, et désormais de faire une histoire apaisée, c'est-à-dire une histoire qui reconnaisse toute la dette de la lecture publique, hein, par rapport à ces bibliothèques populaires, et en particulier toute cette dette dont je vous parlais tout à l'heure de rudiments bibliothéconomiques, savoir que l'idée d'ouvrir le dimanche par exemple, l'idée de faire des registres de prêts, comment on les fait, etc., des règlements, etc., et bien tout ça a été élaboré en partie par les bibliothèques populaires. Alors je ne dis pas que ça n'existait pas dans les bibliothèques patrimoniales, hein, pas du tout, mais c'est très différent, hein. À partir du moment où on prête, à partir du moment où on intéresse les gens aux acquisitions, il faut mettre en place des choses qui n'existaient pas. Et je pense qu'effectivement, Morel est un excellent symbole, hein, de ce passage, avec cette espèce de petite coquetterie, ce feu d'artifice de sa prose qui, hop, au moment où on met des phrases hachées avec des points d'exclamation, donc on en met une de plus à bas les bibliothèques populaires, et cette sorte de repentir, hein, à la fin de sa vie, à essayer de faire en sorte que les dernières bibliothèques populaires puissent au contraire renaître et continuer leur travail. Alors ça contribue aussi à faire de la bibliothèque des amis d'instruction, je suis désolée d'insister, mais c'est important puisque c'est la dernière, hein. Non seulement un musée de la bibliothèque populaire, mais une association toujours vivante, Marie peut en témoigner, les bénévoles étaient là de bout en bout, hein, dans le colloque, ils étaient très actifs, ils étaient très partie prenante, ils écoutaient aussi, ils avaient étudié, enfin voilà, c'était quelque chose d'important, me semble-t-il, pour que cette association perdure, et pour faire un peu ce lien dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir ça ne doit pas être que des intellos, entre guillemets, cette bibliothèque, si on veut reprendre l'histoire de la bibliothèque, il faut bien aussi associer des gens qui aient d'autres fonctions dans la bibliothèque, y compris le bénévolat, la restauration de livres, etc. Donc on n'est pas forcément dans l'universitaire Rancy qui ne travaille que là-dessus, mais on peut être aussi dans d'autres personnes qui ont des choses à apporter à cette bibliothèque. On contribue aussi au sauvetage de certains fonds, on est en train d'essayer de sauver celui d'Anières, et j'espère qu'on en sauvera d'autres. Alors pourquoi ? Parce que ces bibliothèques populaires, quand elles ont fait eh bien, elles ont souvent légué leurs fonds, et le plus souvent aux bibliothèques municipales. Et les bibliothèques municipales se sont retrouvées avec des lots de vieux bouquins. C'est comme ça qu'ils l'ont perçu à l'époque. Et il y a eu certains drames, il y a eu des éliminations drastiques, il y a eu des désherbages un peu poussés. Et on a la chance qu'à certains endroits, c'est le cas de Montreuil et c'est le cas d'Anières, les fonds sont encore conservés. Et ils sont absolument magnifiques et ils sont différents de celui que nous avons à la bibliothèque des amis d'instruction. Vous avez vu tout à l'heure sur la photographie qu'on a des reliures très variées, on a eu beaucoup de dons à la bibliothèque des amis d'instruction. Ce qui est très intéressant, par exemple, à Anières, c'est que le fonds est dans l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire que tout simplement, ils n'avaient pas fait de classement. Ils ont continué pendant des dizaines d'années à mettre un numéro qui correspond à l'ordre d'arrivée. Donc, pour vous donner un exemple en plein dans l'actualité, si on veut étudier les lectures ou les suggestions du public pendant la guerre de 14-18, il faut aller dans ce fonds d'Anières. Parce que là, on a 14-18 sur les étagères. On a l'ordre d'arrivée, on a tous les romans en relation avec la Première Guerre mondiale. C'est génial. On ne peut pas faire ça aujourd'hui dans d'autres bibliothèques. Donc voilà, encore une fois, comment ces fonds, s'ils sont préservés et sauvés, nous en apporterons et nous dirons beaucoup sur les bibliothèques populaires et sur l'histoire des bibliothèques de manière générale. Alors, je voulais aussi dire merci à Jean-Baptiste Girard. Et je reviens au petit hasard de la vie dont je vous parlais, à la vie du chercheur. Ça fait sourire Marianne parce que lors du colloque, je n'ai pas pu montrer cette image pour des raisons tout à fait particulières. Voilà. Alors, je voulais vous raconter la chose suivante. Vous voyez que j'ai une insistance, hein, j'en parlais tout à l'heure, à vouloir trouver parfois des archives qui montrent telle ou telle chose. Hein, quand on a un doute, quand on se dit, mais bon sang, est-ce que, par exemple, l'Empire a voulu contrer les bibliothèques populaires ou est-ce qu'au contraire, il a voulu les aider? Donc on a toujours des doutes quand on est chercheur, et j'avais un doute sur Jean-Baptiste Girard. Alors on sait bien qu'il a existé, ça on en est certain, on a des photographies, on a retrouvé son existence. Alors c'est compliqué en plus, hein. Jean-Baptiste Girard, il y en a des dizaines de Jean-Baptiste Girard, donc il fallait retrouver le bon, mais on savait que c'était bien celui-là, qu'il avait terminé son existence à Anières, donc ça c'était très important. Mais moi je me demandais toujours si ce n'était pas le mythe poussé à l'extrême dont je vous parlais tout à l'heure, d'un ouvrier qui aurait fondé des bibliothèques populaires, c'est-à-dire si on n'avait pas pris un personnage, en le poussant un petit peu, puisqu'on savait qu'en même temps, dans la fondation de cette bibliothèque, on avait au contraire une bourgeoisie, une élite très cultivée. Donc je me demandais s'il avait vraiment existé en tant que fondateur des bibliothèques populaires. Et voilà ce qui m'est arrivé. Un jour, je suis allée aux Archives nationales. J'étais un peu fatiguée, c'était l'après-midi. J'avais travaillé le matin à la bibliothèque. Et je me suis trompée dans ma cote. Quand je suis fatiguée, je fais des inversions de chiffres. Bon. Et j'étais en train de travailler sur le fonds de l'instruction publique. Donc j'ai demandé un carton qui n'avait rien à voir. Alors les Archives nationales aujourd'hui, c'est une très grande salle, la nouvelle salle à Pierrefitte, c'est une très très grande salle. Donc on est obligé d'aller chercher son carton, puis on le rapporte, c'est pareil. Et puis, évidemment, si on le rapporte un peu vite, on se fait un peu regarder de travers, parce qu'ils se disent, mais là, la petite dame a demandé un carton, puis elle rapporte au bout de 2 minutes. Donc j'étais un peu honteuse. Donc j'ai ouvert mon carton, j'ai fait semblant de regarder. Puis il y a toujours ce goût de l'archive dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai commencé à feuilleter mon carton. Et puis là, j'ai vu une première chose, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en haut, j'ai aperçu Association Philotechnique. Ça n'avait rien à voir, hein. C'était donc du courrier arrivé à l'instruction publique dans les années 1880. Hein. Donc j'étais vraiment en train de feuilleter ça machinalement pour me donner une contenance. Et je vois donc Association Philotechnique. Et là, ça attire mon attention puisque je sais que Jean-Baptiste Girard, par protection justement, a été agent de l'Association Philotechnique pendant une vingtaine d'années. C'est-à-dire que ce sont ses protecteurs, ces fameux bourgeois, qui lui ont donné ce poste-là pour qu'il puisse s'occuper du bulletin de la Société Franklin dont je vous parlais tout à l'heure et continuer à animer les bibliothèques populaires. Donc là, du coup, j'ai l'œil qui commence à s'ouvrir un petit peu et je retourne la feuille. Et en retournant la feuille, je vois Jean-Baptiste Girard. Oh, là, j'étais toujours en train de me dire, bon, des Jean-Baptiste Girard, il y en a plein, mais je vais quand même lire. Parce qu'en plus, là, je regarde, puis je vois bien, puis je vois une adresse, c'est Asnières quand même. Alors, des Jean-Baptiste Girard, Asnières, il n'y en a peut-être pas 36. Voilà. Et je lis enfin la lettre. Et cette lettre, elle est superbe. Et vous voyez, hein, quand on est historien, les grandes joies qu'on peut avoir, parce que c'est quand même, j'ai failli faire le tour des Archives nationales en courant et en criant, parce que il y a écrit textuellement. J'espère que vous pouvez le déchiffrer. Hein. Donc, j'ai eu l'honneur de recevoir. Donc, il parle à Jules Ferry de vous, l'accolade, etc., les palmes d'officier de l'Académie, hein, pour les services que j'avais rendus en fondant et organisant les bibliothèques populaires à une époque, 1861. Où personne ne les croyait possibles. Voilà. Et il dit bien je. Il dit pas nous, il dit je. Et ça, pour moi, c'est fondamental, vous voyez. J'avais enfin bouclé par le plus grand des hasards. Est-ce que c'est hasard? Je n'en sais rien, mais je ne vais pas délirer non plus. Mais voilà, j'ai trouvé cette lettre. Et ce sont ces hasards qui, parfois, nous permettent de confirmer des hypothèses. Parce qu'on ne peut pas ouvrir tous les cartons à la Bibliothèque nationale. Les cartons de la série de l'instruction publique, il y en a des milliers. Donc, je n'étais pas dans cette série et je ne l'aurais jamais ouvert, puisque je ne peux pas aller ouvrir les milliers de cartons. Donc, moi, j'ouvre la série Bibliothèque. Je n'ouvre pas cette série-là. Donc vous voyez comment une confusion de cotes peut amener un jour à trouver ce qu'on attendait, ce qu'on recherchait. Et c'est vraiment un clin d'œil qui m'a fait plaisir. Alors effectivement, Jean-Baptiste Girard a été récompensé, alors c'est intéressant, d'une part par l'empereur et ensuite par Jules Ferry. Par l'empereur au moment de l'exposition universelle en 1867, justement déjà pour la fondation des bibliothèques populaires, et ensuite par Jules Ferry. Ce qui est très intéressant, vous le voyez, ça veut dire que la République n'a pas considéré que Jean-Baptiste Girard était quelqu'un diligenté par Napoléon III. Ça veut bien dire que Jean-Baptiste Girard a su se battre pour convaincre des gens sous l'Empire. Sinon, évidemment, la République ne l'aurait pas récompensé pour avoir joué un rôle de fantoche.